Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 20 Ordibehesht, 1401 du calendrier iranien, 10 mai 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran produit un nouvel isotope et s'apprête à étendre son programme nucléaire. La prochaine visite d'Enrique Mora à Téhéran montre que les pourparlers sont sur la bonne voie, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Au Liban, Seyed Hassan Nasrallah dénonce les appels au désarmement du Hezbollah. Et en Ukraine, la paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie, c'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme qu'une visite prévue du chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne à Téhéran montre que les pourparlers sur la relance de l'accord de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjoint, sont sur la bonne voie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la visite faisait partie du processus d'échange de messages entre la République islamique d'Iran et le groupe 4+1 sur la base des pourparlers de Vienne. Il a souligné que Téhéran est prêt pour un bon accord si Washington respecte les droits de la nation iranienne. L'Iran a réitéré que le rétablissement de l'accord dépendrait de la suppression vérifiable des sanctions américaines et des garanties que Washington ne se retirera pas de l'accord comme il l'a fait en 2018. Le secrétaire général du Hezbollah libanais dénonce les appels au désarmement du mouvement de résistance au Liban. Seyed Hassan Nasrallah affirme que les opposants au groupe veulent transformer les prochaines élections législatives du Liban en guerre politique. Dans un discours de campagne électorale, Seyed Hassan Nasrallah a rejeté les appels de certains acteurs politiques au désarmement du Hezbollah. Il a dit que ceux qui prônent le désarmement veulent vendre le pays aux États-Unis et laisser le Liban exposé aux menaces d'Israël. Il a déclaré que ceux qui s'opposent au mouvement de la résistance islamique du Liban veulent que le pays abandonne son outil le plus important qui peut aider le pays à forcer les ressources nationales dans ses eaux territoriales. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré que la résistance est prête à aider le gouvernement à extraire les ressources pétrolières et gazières offshore, ce qui peut facilement d'atténuer la crise économique actuelle au Liban. Le dirigeant du Hezbollah libanais a exhorté les gens à voter pour le groupe de résistance lors des prochaines élections, affirmant qu'il n'y avait aucun espoir de résoudre les problèmes du Liban sans le Hezbollah et la résistance islamique du pays. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a fait savoir, dans un briefing qu'il a fait ce matin, que l'aviation de guerre russe avait détruit pendant la nuit dernière 16 zones de mobilisation de membres et de matériel militaire des forces armées ukrainiennes, tandis que les forces de missiles et de l'artillerie avaient ciblé 33 centres de commandement, 407 zones de mobilisation de forces humaines et de matériel militaire et 5 entrepôts de munitions et du carburant. Un avion de combat ukrainien, Sukhoi 25, a été abattu hier soir dans le gouvernorat de Kharkov, alors que les systèmes russes de défense antiaérienne ont abattu la nuit dernière 3 drones ukrainiens dans la République populaire de Donetsk et dans la ville d'Odessa, a-t-il conclu. Le président français Emmanuel Macron a appelé à une trêve négociée entre la Russie et l'Ukraine, affirmant que l'humiliation de la Russie n'est pas les efforts de paix. L'Europe doit apprendre de ses erreurs passées et s'assurer qu'aucune partie n'est humiliée lorsque la Russie et l'Ukraine négocient pour la paix, a déclaré le président français Emmanuel Macron après avoir qualifié le discours d'anniversaire de Vladimir Poutine d'intimidation et de guerre. Un peu plus tôt, au cours d'un discours, le président français Emmanuel Macron avait également déclaré « Quand la paix reviendra sur le sol européen, nous devrons en construire les nouveaux équilibres de sécurité sans jamais céder à la tentation ni de l'humiliation ni de l'esprit de revanche. » Le président français Emmanuel Macron a toutefois prévu qu'une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait des décennies et il a proposé, en attendant l'entrée dans un nouvel ensemble, une communauté politique européenne susceptible aussi d'accueillir des pays comme le Royaume-Uni. Et enfin, l'Iran a signalé 3 décès liés à la COVID au cours des dernières 24 heures, sont des comptes quotidiens le plus bas depuis le début de la pandémie. Selon le ministère iranien de la Santé, sur un total de 31 provinces, seuls Téhéran et Alborz ont signalé de nouveaux décès. La République islamique d'Iran a largement contenu la COVID grâce à un programme de vaccination de masse. Près de 70% de la population iranienne ont reçu les 2 doses du vaccin. Près de 32% ont également reçu une 3e injection. Le gouvernement a ouvert les écoles et les universités le mois dernier, après plus de 2 ans. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique.
We'll be right back.
président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, affirme que Téhéran est déterminé à poursuivre le développement de son programme nucléaire malgré les efforts de l'Occident pour limiter la production d'eau lourde en Iran. L'Occident augmente ses pressions pour démanteler à terme les usines de production d'eau lourde en Iran, comme il l'a fait dans certains pays de l'Europe de l'Est, a déclaré Mohammad Eslami. Il a ajouté que grâce aux mesures efficaces adoptées par le leader de la révolution islamique, le programme nucléaire iranien se développe chaque jour, ayant un impact profond sur les moyens de subsistance et le système de santé de la population. Il a fait ses remarques mardi lors d'une cérémonie d'inauguration marquant la fabrication de kits pour les tests de dépistage néonatal conçus pour détecter les conditions métaboliques. Nous avons réussi à nous procurer l'isotope oxygène 18 dans le processus de production d'eau lourde, a-t-il ajouté. L'isotope oxygène 18 est largement utilisé dans divers domaines comme l'environnement, la biochimie, le diagnostic et le traitement médical. Eslami a déclaré que les kits utilisés pour détecter l'état métabolique des nouveau-nés étaient importés en nombre limité, ajoutant que l'Iran fait désormais partie des 5 principaux pays fabriquant ces kits. Le kit a été produit en un an et nous prévoyons également de l'exporter, a-t-il ajouté. En janvier dernier, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré que l'Iran produisait suffisamment d'eau lourde et en exportait à 8 pays. Il a déclaré que la République islamique d'Iran doit avoir ses propres centrales nucléaires et produire le combustible nécessaire ainsi que la médecine nucléaire dont il a besoin.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, il sera question de la visite soudaine du président syrien Bachar Assad à Téhéran, en Iran. Il a rencontré le guide suprême de la révolution islamique, également le président iranien. Alors le guide suprême de la révolution islamique a dit et a loué la résistance syrienne durant la guerre contre le terrorisme international. Il a dit qu'aujourd'hui, la Syrie doit et peut garder la tête haute dans le monde. Par ailleurs, le président iranien mettant l'accent sur le développement des relations bilatérales dans tous les domaines avec la Syrie, a dit que pour reconstruire le pays, c'est une chose facile. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de garder les mêmes principes, ce que la Syrie a bien réussi au cours de ces dernières années. Alors, nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales, en commençant par M. Aysar Midani, expert franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Madame Midani, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous. Je suis à Paris, en fait.
Ah, vous êtes à Paris, donc.
Oui.
Tant
oui.
mieux. Bon, puisque M. Arnaud Develay, juriste international, est avec nous depuis Damas, justement. Monsieur Develay, bonjour.
Oui, bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Madame Midani.
Un plaisir de vous recevoir, Monsieur Dames, dans cette émission Le Débat. Nous parlons bien sûr de la visite soudaine de Bachar Assad, le président syrien à Téhéran. C'est une visite surprise, car il a, au cours de ces 10 dernières années, c'est-à-dire depuis 2011. C'est la deuxième fois qu'il se rend à Téhéran. C'est une visite soudaine et surprise, ce qui a contenté bien sûr tous les Iraniens. Alors ma première question va s'adresser à Aïssar Midani. Alors Madame Midani, cette visite, comment vous traduisez cette visite soudaine du président syrien à Téhéran?
Bonjour à vous donc, et à tous les téléspectateurs. D'abord, je crois que c'était... cette visite, elle vient après 3 années de la visite précédente, en fait, hein, en 2019, qui était dans une phase importante, en fait, de la libération de la Syrie. Aujourd'hui, c'est une phase importante aussi du changement du monde. Donc, il était, et puis, à la fois de la montée, je dirais, de la résistance palestinienne, de la résistance yéménite. Donc, il y a des victoires qui se font dans tous les points, en fait, des pays de l'axe de la résistance. La Syrie est la pierre angulaire de cet axe de la résistance avec l'Iran. Il y a aussi un changement de la situation mondiale, du paysage mondial avec la guerre et l'opération militaire de la Russie en Ukraine, mais aussi cette opposition, comment dire, cette guerre très ouverte que mène l'OTAN contre la Russie, les victoires de la Russie en Ukraine. Donc, il y a un changement total du paysage mondial, je dirais, des rapports de force mondiaux, le nouveau monde qui se profile, de plusieurs multipolaires qui se profilent. En fait, et qui naît aujourd'hui, toutes les sanctions qui sont appliquées aussi bien contre la Syrie, contre l'Iran, contre la Russie, contre la Chine, sans oublier Cuba, Venezuela, etc. Cette politique des sanctions que mènent les Américains et les pays de l'OTAN. Tout ceci fait que, en face, on a les pays se serrent les coudes et puis renforcent leur unité pour faire réussir
absolument
le nouveau monde et ce pacte face à l'hégémonisme et au pillage des forces impérialistes des richesses du monde. Donc ça, c'est un point important dans l'ensemble. Je dirais aussi, la Syrie et l'Iran ont des relations stratégiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, bien entendu. Mais là, c'est aussi l'occasion d'un renforcement des accords, d'une généralisation des accords à d'autres domaines qui n'existaient pas. Peut-être aussi les domaines... des domaines au-delà des domaines économiques, militaires, etc., mais aussi au niveau des domaines de l'échange.
Absolument, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, tout ceci est absolument très important et il était important de le traiter rapidement aussi avec l'Iran.
Absolument. Nous allons développer cette question tout à l'heure, mais nous savons tous que tous les pays qui battent le terrorisme international, des sanctions sont exercées à leur encontre, comme l'Iran ou bien la Syrie. Maître Develay, vous êtes avec nous depuis Damas. Alors, le président iranien, en rencontrant le président syrien, a dit qu'il faut reconstruire le pays, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de garder les principes. Et ce que la Syrie a très bien réussi au cours de ces dernières années. À votre avis, quels sont ces principes qui a été évoqué par le président iranien?
Je pense qu'avant tout, ce sont des principes qui reposent sur la souveraineté nationale, le refus de s'agenouiller devant des puissances néocoloniales finissantes qui sont en train de révéler en fait l'hypocrisie du discours qu'ils ont tenu depuis des décennies, puisqu'on s'aperçoit qu'ils ne respectent même pas les principes en ce qui concerne leur propre population de transparence et de progrès social et d'attachement à certaines valeurs que je pense, on peut le dire, le monde entier partage, qui sont celles du respect de la vie, du respect de l'amélioration des conditions de vie de manière objective, et du respect surtout des autres cultures. J'essaie d'avoir un peu cette approche consensuelle, mais aussi en ce qui concerne la région, bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de la situation en Palestine occupée, avec encore des événements récents qui laissent entendre que on se dirige vers une confrontation de plus en plus organisée avec un axe de la résistance qui va devoir coordonner ses actions et rester, si je puis dire, serein face aux provocations, parce que c'est la résistance qui choisira le moment et la manière. Et dans ce contexte-là, on peut effectivement, et je rejoins Madame Mitani sur ce sujet, penser que les discussions ont porté aussi sur des aspects sécuritaires. J'ajouterais à cela qu'avec les élections législatives au Liban, là, dans quelques jours, il est important de garder un petit peu un œil sur ce qui se passe dans le Liban voisin. On apprend aussi qu'en Irak, il y a eu un accord consensuel qui laisserait ce qu'ils appellent le bloc chiite la responsabilité de résoudre la crise institutionnelle qui maintenant perdure depuis le mois d'octobre. Et bien sûr au Yémen, avec cette trêve qui ne semble pas en être une, mais plutôt un repositionnement tactique, en sens où l'Arabie Saoudite devait normalement respecter deux conditions qui portaient sur l'aéroport de Sanaa et sur la possibilité pour du pétrole d'arriver au port d'Hodeïda. Et cela n'a pas été respecté. Donc, c'est un petit peu une pause dans les combats, je pense, mais malgré les déclarations officielles de l'envoyé spécial de l'ONU, j'ai bien peur que ce ne soit qu'une pause dans un processus qui dure maintenant depuis 8 ans. Donc toutes ces composantes s'embriquent les unes dans les autres. Madame Mitani l'a souligné, on a également en toile de fond le conflit en Ukraine. Et effectivement, le monde est en train de basculer à une vitesse vertigineuse. Le régime des sanctions imposées par les puissances néocoloniales est maintenant déployé tout azimut, mais avec de moins en moins d'effets, il semblerait. La preuve en est étant que le rouble russe gagne en puissance de jour en jour. On était vendredi dernier à 67 roubles pour $1, alors que au début de l'opération, il était prévu que le rouble 120 roubles. Donc la stratégie économique et le repositionnement des politiques économiques russes depuis 2014 semble montrer son efficacité, mais encore une fois, face à des puissances finissantes qui réalisent qu'ils sont en train de perdre la main et qu'il y a en cela le centre de gravité du monde est en train de bouger, on peut imaginer que il va falloir rester extrêmement vigilant. Les provocations vont se multiplier. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut, à mon avis aussi, analyser la visite du président Assad, parce qu'effectivement, Madame Mitani le disait, il va falloir que les pays qui résistent à l'impérialisme se serrent les coudes et fassent preuve de coordination de tous les instants.
Absolument. Autrement dit, cette visite du président syrien Bachar Assad, c'est symbolique, en quelque sorte, face à les pays qui doivent donc se serrer les coudes justement pour faire face à cette nouvelle naissance que vous avez fait allusion tout à l'heure, Madame Mitani. Alors revenons à la résistance syrienne. Le guide suprême de la révolution islamique a beaucoup loué la résistance syrienne, également la personnalité de Bachar Assad au cours de ces dernières années, durant ces crises, cette guerre contre le terrorisme international. J'aimerais que vous développiez cette question, je vous prie.
Oui, effectivement, parce que s'il n'y avait pas cette obstination et cette résistance du président syrien, il faut savoir qu'à un moment donné, les attaques étaient tellement violentes qu'il n'y avait plus de tous les côtés par les terroristes interposés de tous les côtés de la Syrie. À un moment donné, il n'y avait plus que pratiquement 30 à 40 % du territoire qui était sous le contrôle de l'État. Mais la détermination du président Assad a continué à remobiliser la résistance de la population aussi syrienne, la résilience du peuple syrien à supporter aussi les conditions difficiles. Et surtout, je dirais, cette détermination du président Assad à sauvegarder la souveraineté nationale en tissant aussi des liens politiques très importants au niveau du monde. La liaison ou le lien avec important et solide avec l'Iran et qui est stratégique, qui a permis aussi de conforter sa position aussi de défense de l'indépendance nationale, de continuer à défendre la souveraineté, tout en même temps d'ailleurs à continuer à soutenir la résistance palestinienne. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2014, lorsque Gaza a été aussi violemment attaquée, la Syrie l'a soutenue, alors qu'elle était aussi en but au coup de burin de toutes les factions terroristes animées, soutenues, financées et dirigées par les forces de tous les pays de l'OTAN et tous les services secrets de l'OTAN, ajoutés aussi à des pays malheureusement de la région qui se disent des pays arabes, etc., qui aussi finançaient et animaient ces hordes sauvages terroristes qui se sont attaqués à la Syrie. Donc c'est bien cette fermeté, cette croyance ferme et cette foi dans la patrie et dans le peuple qu'a le président Assad, qui a mené effectivement le peuple syrien à la gloire et à la libération de maintenant 90% du territoire syrien. Il n'en reste pas moins quand même qu'il y a les Américains qui continuent à occuper une partie, les Turcs qui continuent aussi à occuper une partie du pays. Et donc, cet accord cet éloge de Ayatollah Khamenei par rapport au président Assad et aussi montre aussi qu'il a confiance en lui,
Madame Idami,
pour la libération du reste du pays et assure le soutien aussi pour la libération de la région de Hasakeh et de la région d'Idlib qui reste à libérer en Syrie.
Oui, Madame Idani, donc vous êtes d'accord avec cette phrase du guide suprême de la révolution islamique qui a dit que la Syrie doit et peut garder la tête haute dans le monde aujourd'hui?
Absolument. Je dirais même plus, je pourrais dire que c'est la résistance de la Syrie et c'est l'échec du plan de l'OTAN en Syrie qui ouvre la voie aujourd'hui au nouveau monde et au monde multipolaire. Parce que si la Syrie avait abdiqué, et le monde aurait continué à être monopolaire sous la domination, en fait, aussi des forces de domination impérialiste, hein, où ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais franchement, c'est la résistance de la Syrie qui a changé le monde, je peux dire aujourd'hui, et qui a servi aussi à des forces très importantes comme la Russie, de reprendre effectivement les forces pour apparaître sur la scène mondiale comme un grand pays et qui aujourd'hui fait donc face aux Américains aux Américains et à tous les pays de l'OTAN en fait qui sont les Européens qui sont que des satellites aujourd'hui des Américains.
Absolument. Maître Develet, votre avis sur cette phrase, est-ce que la Syrie doit et peut garder la tête haute dans le monde aujourd'hui?
Oui, elle l'a démontré depuis le début de la guerre hybride menée contre elle par effectivement les puissances de l'OTAN. Mais j'ajouterais qu'au-delà de cette évidence soulignée par le guide de la Révolution, il faut aussi quelque part lire que les puissances déclinantes et belliqueuses ne vont pas arrêter, loin s'en faut, leur machination, qu'au contraire, on peut imaginer que les choses vont se tendre davantage, parce qu'on arrive essentiellement à une situation de si je puis dire, de blocage, de gel des lignes de front. Et on peut penser que des nouveaux plans sont préparés constamment. Ces gens travaillent 24 heures sur 24. Ils poursuivent un agenda qui fait qu'ils ne peuvent pas concevoir la défaite ni même se remettre en question et travailler sur eux-mêmes. Donc on peut penser que cette déclaration est aussi axée sur l'idée de rester, faire preuve, montre de résilience et de rester extrêmement vigilant et concentré. On ne peut pas se permettre de se féliciter alors que tout reste à faire quelque part. Je rappelle pour nos téléspectateurs que des pays de la région ont opté pour, si je puis dire, l'abandon de certains principes fondamentaux qui, on peut le penser, sont intrinsèques à l'islam. Ont préféré privilégier le court terme et courter le diable quelque part au travers d'accords dits de normalisation, et que dans ce contexte-là, tout est fait pour diviser la région au travers de plusieurs clivages, et il faut louer effectivement la prise de position de principe du président Assad, ce que le guide de la révolution a bien pris le soin de démontrer que quand on s'accroche à des principes inaliénables, certes, le chemin est plus ardu, mais au moins l'honneur est sauf et on peut effectivement garder sa tête haute, et on peut surtout démontrer que il est possible de confronter les agresseurs et de leur faire mordre la poussière. Et c'est ça la leçon, je pense, qu'il faut retenir. Parce que de toute façon, les puissances déclinantes n'ont de cesse de cajoler leurs alliés du moment dans le bon sens, mais quand ils n'ont plus besoin d'eux, ils les sacrifient. Et ça s'est vérifié plusieurs fois encore récemment avec en Afghanistan. Et on peut penser qu'à un moment donné, en Ukraine, si le besoin le requiert, le pion Zelensky sera sacrifié afin d'alimenter un narratif qui visera à pointer du doigt la Russie. Donc voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas, quelque part, quand on recherche la route vers le succès, vers le respect de soi et le respect de ce qui doit être partagé comme valeur entre les peuples, prendre des raccourcis, c'est en général, il faut prendre l'escalier et il faut faire montre d'humilité et ne jamais assumer que le travail est terminé, loin s'en faut.
Ce qui est très bien dit, Maître de Velay. Madame Midani, parlons des relations entre la Syrie et l'Iran, les bonnes relations qui règnent en ce moment, mais qui datent, comme vous l'avez dit, depuis très longtemps. L'honneur a été sauvé par la Syrie durant la guerre contre le terrorisme international. Mais l'avenir de la bonne relation entre la Syrie et l'Iran, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que cette bonne relation peut assurer en quelque sorte la sécurité de la région?
En fait, je le pense réellement, parce qu'en fait, chacun des deux pays bénéficie quand même de la confiance de son peuple, d'une part, et ça, c'est un point important aussi. D'un autre côté, il y a des relations, en fait, les relations qui se tissent au niveau autour du front de la résistance lui-même, en fait, qui favorisent, qui travaillent effectivement avec tous les pays tous les peuples du front de la résistance. Mais aussi ils sont appréciés énormément par les peuples des pays qui trahissent. Je voudrais dire quand même le peuple bahreïni, le peuple qui se manifeste et depuis longtemps aussi manifeste son soutien à la résistance palestinienne, le peuple palestinien pareil, qui aujourd'hui s'unit, il est uni complètement dans cette lutte acharnée face à l'occupant sioniste alors qu'on a, on a observé à un moment donné qu'il y avait un certain nombre, et c'est toujours le cas de, d'organisations qui vont plutôt dans le sens du, de la trêve, je dirais même de la composition avec l'ennemi. Bon, en fait, aujourd'hui, on va dans, ce, dans le sens du respect systématique de la souveraineté des peuples, la souveraineté des peuples, et puis le, l'entraide économique pour pouvoir résister à ces sanctions qui, que les Américains et l'OTAN distribuent à profusion à tout, tout pays qui s'oppose à eux. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'ils s'opposent à leur diktat. Le dernier exemple que je voulais évoquer, et puis bon, leur relation avec la Chine, avec l'Inde, avec le dernier exemple, c'est le Pakistan. Le Pakistan qui était allié des Américains, il a effectivement pris position contre les sanctions américaines, a commencé à tisser des relations avec la Chine, des relations importantes. Et ils ont, les Américains ont essayé de fomenter des troubles contre lui, contre Imran Khan, pour que il soit. Mais là, il revient en force. Il revient, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les manifestations populaires importantes, des millions de personnes qui ont manifesté pour qu'il revienne au pouvoir, disent quand même à quel point le peuple est refuse ces diktats et refuse aussi l'ingérence en fait américaine qui est systématique américaine et otanienne de tous les pays satellites, les pays impérialistes.
Absolument.
On voit même que même l'Arabie saoudite qui était inconditionnel vis-à-vis des Américains, commence à prendre aussi de recul par rapport aux sanctions qui sont imposées à la Russie. Elle n'a pas pris position, elle essaye, elle va même passer des accords avec la Russie sur le pétrole. Donc en fait, c'est, à mon avis, c'est inévitable. De toute façon, la politique américaine et européennes qui sont des politiques de pillage et de mépris des peuples et de mépris y compris de leurs alliés, elles ne peuvent que provoquer effectivement la révolte et qui va finir par s'exprimer de manière plus claire quand les gens, quand les peuples vont voir qu'ils ne sont pas seuls et ils ne sont pas isolés. Donc cette politique, il est important de propager, je dirais, cette solidarité entre les différents pays qui s'opposent à ces principes de domination pour devenir effectivement un barrage, pour faire un barrage
Absolument.
Au pillage et à la politique de mépris des peuples.
Aïssa Armidani, expert franco-syrienne des affaires étrangères et internationales. Merci infiniment d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Maître Arnaud Develay depuis Damas, juriste international, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le Moyen-Orient.
Des sanctions à l'escalade militaire, une route pavée d'erreurs de perception du côté des Américains en Ukraine. Que se cache-t-il derrière ce désordre? Eh bien, d'une part, l'hubris, mais aussi l'incapacité à vraiment étudier la situation et un manque de prévoyance stratégique. Il semble que la guerre en Ukraine soit en train de se transformer à la fois en s'élargissant avec l'ouverture d'un front Moldavie Transnistrie et d'un front polonais, et en s'approfondissant avec les États-Unis qui se préparent à une longue guerre d'usure de type Idlib destinée à affaiblir et émasculer la Russie. Les nouveaux fronts sont les stratagèmes classiques pour disperser la concentration militaire ciblée de l'adversaire en forçant l'attention sur les feux de brousse fragmentés allumés autour du périmètre qui exigent une action et peut-être le déploiement de troupes. L'initiative polonaise, coordonnée directement avec les États-Unis, est à la fois plus grave et plus sinistre. L'objectif, tel qu'il a été décrit par le chef des services de renseignements extérieurs russes, SVR, Sergueï Narychkin, serait d'établir le contrôle militaire et politique de Varsovie sur ces territoires historiques qui font aujourd'hui partie des frontières de l'Ukraine. La Pologne introduirait ses troupes dans les régions occidentales du pays sous couvert d'une mission de protection du territoire contre l'agression russe. À terme, cela devrait conduire à une partition de l'Ukraine. Les Polonais installeraient un gouvernement ami sur le territoire qu'ils contrôlent. Sinistre ? Eh bien, très probablement oui. Rappelez-vous le modèle d'Idlib. La Turquie, avec la coordination de la CIA, a envahi la province syrienne d'Idlib, revendiquant également ses territoires historiques, soi-disant pour protéger les forces d'opposition, c'est-à-dire les terroristes liés à la CIA et à la Turquie, contre le méchant régime Assad. S'agit-il du plan américain pour la prochaine phase d'une longue guerre contre la Russie qui pourrait durer des années? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, l'Union européenne et les États-Unis sont susceptibles de se mettre d'accord sur un budget de 33 milliards de dollars pour l'Ukraine pour les 5 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'aux élections de mi-mandat du Congrès américain. Un calendrier qui en dit long et qui vise à faire entrer en Ukraine des quantités massives d'armes de plus en plus lourdes et des masses d'argent liquide si la Russie les laisse faire, ce qu'elle ne fera peut-être pas, préférant détruire les armes à leur arrivée. On peut dire que la guerre de l'Occident contre la Russie a évolué d'une guerre financière ratée qui n'a pas entraîné l'effondrement précoce du rouble ni du système financier russe, vers le monde trop familier de la mise en place, de financement et de l'armement d'une insurrection d'usure. Mais est-ce le cas? Peut-être est-il vrai toujours que la lutte financière, sanctions, économiques reste primordiale. Cela ne signifie pas du tout, bien sûr, que les résultats militaires sont insignifiants. Ils ne le sont pas, mais c'est plutôt parce que l'Occident a tellement mal interprété la conduite de l'opération militaire russe, en essayant de la lire à travers le prisme d'une OTAN aveugle reflétant sa propre façon de faire la guerre, qu'une sous-estimation grossière du risque de perte catastrophique de l'UE dans l'espace de bataille économique est possible. Si les risques d'une guerre de sanctions sont potentiellement si dévastateurs, pourquoi les dirigeants européens les ignorent-ils ? Cette sous-estimation des risques auxquels l'Europe est confrontée résulte principalement d'une atmosphère de grande euphorie à Washington et à Bruxelles quant au déroulement du conflit militaire, en lequel s'ajoute le plaisir d'infliger à Poutine une défaite civilisationnelle humiliante. Cette combinaison a donné lieu à une évaluation optimiste de la balance des forces économiques de l'espace de combat contre le UE et la Russie. En voici l'essentiel. Au départ, l'UE s'attendait à ce que le rouble russe s'effondre rapidement en raison de la saisie des réserves de change russes par l'UE et les États-Unis et de la sanction de la Banque centrale russe. Et cet effondrement de la monnaie, supposait-on, ferait tomber les dominos dans un effondrement en cascade des institutions financières russes. Mais cela ne s'est pas produit. L'UE avait calculé uniquement sur la base de son expérience de la crise financière russe de 1998 et de la tentative américaine de crash de rouble en 2014. La raison de l'échec de leur plan est qu'entre-temps, la Russie a remédié à la vulnérabilité de son système financier aux attaques monétaires. Aujourd'hui, le système financier russe est stable. Ça menait à plus que récupérer les chutes initiales. Et ça, la balance commerciale a explosé en raison de la hausse actuelle des prix du pétrole et des matières premières. Paradoxalement, la situation financière de la Russie est plus solide que celle de nombreuses économies européennes. Bien sûr, la Russie souffre. Vendredi, le directeur de la Banque centrale a déclaré que la Russie pourrait connaître une baisse de vite à 10% de son PIB cette année en raison des perturbations des lignes d'approvisionnement, les États occidentaux ayant retiré leurs entreprises de Russie, et l'inflation est élevée, elle a donné un chiffre de 10 à 12% pour l'inflation réelle, à peu près équivalent à celui de l'Europe, mais elle a également réduit les taux d'intérêt pour la deuxième fois afin de stimuler l'investissement intérieur. Loin donc d'un tableau d'effondrement économique imminent, il a dépeint une situation douloureuse gérable à court terme qui serait en grande partie corrigée d'ici 2024 malgré des incertitudes persistantes. Après que l'Union européenne se soit demandé pourquoi son plan initial d'effondrement de l'économie avait échoué, l'ampoule s'est allumée. Ah ! La Russie accumulait tellement de devises étrangères en vendant du pétrole et du gaz à des prix élevés que les rentrées de devises faisaient grimper le rouble. Solution, l'UE doit cesser d'acheter du pétrole et du gaz russe. Il doit priver Moscou de devises étrangères. Le rouble sera alors contraint de plonger comme il se doit. Encore une fois, faux. En fait, la plupart des entrées de devises sont stérilisées sur les comptes de la Banque centrale, précisément pour qu'elles ne fassent pas grimper davantage la valeur du rouble. Lors du même événement où la directrice de la Banque centrale, Elvira Nabilina, a présenté son rapport économique, Nikolai Patrouchev, chef du Conseil sécurité nationale de Russie, a expliqué exactement pourquoi le rouble ne s'est pas effondré et les moyens par lesquels il a été souverainisé. Mais bien sûr, Madame von der Leyen interdit la diffusion de toutes les nouvelles et de ses explications en provenance de Russie et dans l'UE. Et, sous sa houlette, l'UE se rapproche de plus en plus de l'interdiction d'acheter du pétrole à la Russie. L'UE est de nouveau sur l'escalateur des sanctions et elle semble satisfaite d'y être. Les experts ont clairement indiqué que l'interdiction de tout russe est synonyme de rideau pour l'Europe. Inflation galopante, rationnement probable de l'énergie, désindustrialisation, récession et troubles sociaux. Pourquoi l'UE ne change-t-elle pas de cap? Eh bien, en dehors de l'euphorie liée à la poursuite d'un changement idéologique majeur dans le monde, c'est parce que les dirigeants de l'UE ont la réalité militaire en face d'eux. Les dirigeants occidentaux affirment que le calendrier militaire de la Russie, sa stratégie, son objectif de rattraper l'Ukraine à la Russie sont une véritable pagaille. Si vous croyez cela, alors prendre le risque économique de sauver l'Ukraine et l'ordre libéral peut être considéré comme valable. Si vous croyez également que l'armée dysfonctionnelle de la Russie pourrait perdre la guerre dans les 2 semaines à venir, voire dans quelques mois tout au plus, les dirigeants de l'UE pourraient alors considérer la flambée des prix de l'énergie et même l'inflation comme un simple phénomène transitoire, et qu'à la fin de l'été, la normalité des prix reviendrait. Le postulat sur lequel se fonde cette évaluation occidentale, fantaisiste, repose sur une interprétation totalement erronée de la façon dont une force russe plus petite pourrait utiliser une stratégie de manœuvre et de feinte pour façonner un champ de bataille sur lequel des forces ukrainiennes plus importantes sont manipulées dans des positions défensives fixes et immobilisées, coupées de tout soutien, renforcement et réapprovisionnement. La doctrine Clausewitzienne veut que la victoire soit obtenue en réduisant l'armée de l'adversaire en poussière, Les forces russes réduisent en poussière les positions fixes et encerclées de l'armée ukrainienne principalement dans le Donbass. Exactement en ce moment, s'agirait-il d'une victoire? Non. L'Ukraine semble destinée à un ultime démembrement. Ce sera un moment lourd de risque d'escalade. Avec le recul, il sera probablement considéré comme un chapitre parmi d'autres d'une longue guerre. Que se cache-t-il derrière ce désordre? Eh bien, d'une part, l'hubris, mais aussi l'incapacité à vraiment étudier la situation, un manque de prévoyance et stratégique. De nombreuses idées fausses ont été alimentées par les pressions de l'infoguerre. Les affirmations absurdes, aussi fausses soient-elles, ne pouvaient pas être contrées car nous sommes dans une guerre de l'info contre la Russie.